Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité spécial, c'est Daniel Goa, le président de l'Union Calédonienne, élu à la province Nord au Congrès. Daniel Goa, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation à 2 semaines du 3e référendum, le 12 décembre. C'est dans 16 jours seulement, nous allons en parler largement, mais l'actualité, c'est aussi la déclaration de politique générale prononcée hier par Louis Mapou. Vous étiez à la salle Cécia du Centre culturel Tchibaou. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous partagez les grandes lignes de cette déclaration de politique générale?
Je pense à la personnalité de M. Mapou qui est un pro. Comment dire ça? Un pro-collégialité, à fond. Là, donc, il a pris des décisions qui favorisent le travail en commun avec l'ensemble des forces qui sont au gouvernement. Et là, la déclaration qu'il a faite hier, elle est issue d'un travail en commun. Et j'ai trouvé que la déclaration, elle est tout à fait ce qu'il nous faut, surtout maintenant, dans les périodes qu'on est, mais aussi, c'est pour l'avenir. Je pense que il y a tellement d'injustices aussi à Alia que si jamais la déclaration qu'il nous a faite, elle est appliquée, eh bien, le pays, à la limite, on dira qu'on est indépendant.
Il est pro-collégialité, dites-vous, pourtant ça lui a été reproché. Les autres membres du gouvernement n'ont eu sa déclaration que dans la nuit vers 1h du matin, alors qu'en principe, ils ont le temps de la relire, de donner leur avis.
Ben moi, je l'ai reçu à 1h du matin, et je n'ai même pas vu. C'est lui qui m'a dit que je t'ai envoyé. Donc, je pense que c'est tout le monde, mais il l'a fait exprès parce que, évidemment, maintenant, avec les réseaux, tout est exploitable. Et donc, il a préféré réserver la primauté au public qui était présent hier.
Il avait peur que sa fuite s'était mise si c'était distribué avant. Oui. Il inscrit l'action de son gouvernement dans les 3 prochaines années. Hein. Il dit que c'est le fil d'Ariane des 3 années qui viennent. Est-ce que ce n'est pas un peu trop ambitieux? Est-ce qu'il a la capacité de voir comme ça sur le long terme, étant donné le contexte de la Nouvelle-Calédonie?
Je pense que tous les membres du gouvernement, s'ils travaillent chacun dans leur secteur, je pense qu'il peut approcher de bons résultats. Il y a des chantiers qui sont lancés parce qu'ils sont urgents, mais il y a des mesures qui se profilent dans le temps, quoi. Et donc, non, je pense qu'il a pris les mesures nécessaires pour pouvoir avancer comme ça la déclaration qu'il nous a faite.
Donc finalement, l'Union calédonienne ne regrette pas d'avoir laissé la présidence du gouvernement à l'UNI pour cet exercice, pour le 17e gouvernement.
On regrette de ne pas savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aurait fait notre candidat. Mais on ne regrette pas non plus que Loulou soit là, puisque c'est issu d'une décision des instances de l'Union calédonienne pour arrêter le blocage.
Alors l'actualité, c'est aussi bien sûr le 3e référendum du 12 décembre. Les indépendantistes ont donc décidé d'appeler à la non-participation parce que la date du 12 décembre a été maintenue par l'État. Très franchement, Daniel Goa, vous pensiez que l'État allait reporter la date parce que vous lui aviez demandé?
Non, je ne pense pas. Je sais que l'État, il est sourd, hein, et on l'a vu ces derniers mois. Quand on a fait des propositions à l'État, on n'a pas les bons retours. Et donc, non, ça ne m'étonne pas du tout que l'État a maintenu la date.
Et alors, quelles sont vos véritables motivations pour refuser de participer à ce scrutin? Vous avez beaucoup invoqué la crise sanitaire. C'est toujours la raison qui vous fait dire que le référendum ne peut pas avoir lieu le 12 décembre?
Oui. On a beaucoup invoqué le deuil kanak. Donc, ça se comprend chez nous, mais ça ne se comprend pas par tout le monde, parce que c'est aussi une des figures du pays, c'est que chacun vit dans son monde et puis on ne se connaît pas. Mais le deuil à l'occidental, c'est une relation de défunt avec sa famille. c'est-à-dire son fils, sa femme, etc. Le deuil chez nous, les Kanaks, c'est... Le sang, il appartient aux mamans. Et le statut social appartient au papa. Et donc, c'est quand il y a un qui part, qui décède, eh bien, il y a tout le réseau à retisser. Donc, le deuil, on a un besoin pour pouvoir reconstruire l'avenir et aussi apaiser les tensions sociales quand il y en a dans les familles. Mais donc, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on y tient. Hein.
Mais ça n'empêche pas non plus la vie de continuer malgré tout. Je veux dire, vous continuez à vivre à peu près normalement malgré cette crise sanitaire et malgré le nombre important de morts qu'a connu la Nouvelle-Calédonie.
Normalement, non. Parce qu'on est limité à 10 dans les enterrements. Et donc, pour nous, on ne peut pas aller parler de lever de deuil si on n'est que 10, quoi.
Mais alors, dans un premier temps, vous aviez beaucoup invoqué la crise sanitaire, et d'ailleurs, le ministre des Outre-mer vous avait répondu, si la situation est sous contrôle, le référendum sera maintenu. Vous constatez quand même que la situation sanitaire aujourd'hui est effectivement sous contrôle, les choses vont mieux.
Oui.
Ça vous rassure ?
Aujourd'hui, ça me rassure, oui. Les choses vont mieux. J'espère qu'il n'y aura pas de rebond avant le référendum. Mais le délai qui nous est imparti pour faire la campagne et puis reprendre une décision de participer, ça ne tient plus la route. Donc, c'est dommage qu'on soit à ce résultat du Covid que maintenant. Ça avait été avant. Nous, on est parti pour faire la campagne. Et puis, c'est le Covid qui nous a ralenti, qui nous a fait décider à ne plus... participer à ce référendum.
Et vous le regrettez maintenant ?
Non, je ne regrette pas, mais je dis que nous aurions participé si le résultat était ce qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, quand on a pris l'indécision, on était vraiment... la situation, elle était assez grave.
Mais alors, à part la crise sanitaire, justement, peut-être parce qu'elle est en voie d'amélioration, désormais, vous avez des arguments plus politiques. On entendait le comité stratégique indépendantiste de non-participation qui, l'autre jour, accusait l'État d'être sorti de sa neutralité. C'est aussi l'un des éléments qui vous conduit à ne pas participer ?
Oui, il y a un peu de ça. Mais c'est surtout le deuil. Il y a un peu de ça parce que on a constaté en 2020 l'autorisation du drapeau tricolore qui sort complètement de l'esprit de l'accord Nouméa.
C'est uniquement pour la campagne officielle, hein. C'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire.
Ah si, c'est extraordinaire, parce que on a fait le clivage, drapeau contre drapeau. Et ce n'est pas du tout dans l'esprit de l'accord Nouméa. On fait 3 référendums, c'est pour apprendre aux gens à réfléchir et à dire, bon, ok, on fait notre pays 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas... Et c'est le drapeau, d'abord, le drapeau qui est sorti, puis qui montre que l'État a pris position. Et puis là, aujourd'hui, le document dit oui, nous, on a dit que c'était un document à charge. Et pourquoi ? Parce qu'il nous enferme dans une relation duale, France, nous. Alors que le Pacifique, il est grand, et il y a du monde, et puis il y a des grands pays comme l'Australie, et puis il y a le monde au-delà. Donc, ce document-là, il essaye de nous isoler dans un rapport France-ici.
Mais quand vous étiez à Paris, Daniel Goa, avec une délégation de l'Union calédonienne, alors qu'on le rappelle, l'UNI n'a pas fait le déplacement à Paris, c'est à ce moment-là que le document vous a été présenté et que vous avez travaillé dessus. Et on se souvient que l'Union calédonienne était plutôt favorable à ce document à l'époque.
Nous, on a eu la première version. Donc, en attendant, nous avons transmis notre projet au Premier ministre. Et le document, il devait être finalisé avec... le document du oui, hein. Il doit être finalisé avec les propositions que nous avons faites. Et donc, quand il a refait la dernière sortie, eh bien, nous n'avons pas retrouvé nos choses. Donc, là-dessus, on a dit que l'État aussi, là aussi, il prend position. Et ce n'est pas tout à fait le rôle du troisième partenaire.
Mais pourtant, vous le vouliez, ce document sur les conséquences du oui et du non. Vous pensiez que c'était à l'État de le préparer, d'expliquer quelles étaient les conséquences en fonction du vote des Calédoniens.
Nous avons demandé une bilatérale. Jusqu'à présent, nous avons toujours demandé une bilatérale avec l'État. Demander une bilatérale avec nous, les oui. Parce que pour nous, la bilatérale doit permettre de tracer le chemin. Et en même temps, l'État fait une bilatérale avec les porteurs du non pour nous dire comment leur vision. Et donc, l'État a réussi à faire le tour de main en ramenant tout le monde sur la même table. Et voilà, on sort un dossier qui, enfin, un document qui, pour nous, elle n'est pas réaliste parce qu'elle ne prend pas en compte le contexte dans lequel on est aujourd'hui.
Alors, beaucoup disent aussi qu'en fait, les indépendantistes ont choisi de ne pas participer en prenant le prétexte de la crise sanitaire parce qu'en fait, vous saviez que vous alliez perdre ce troisième référendum.
Oui. Non, nous. On a fait les deux, on a perdu, on fera le trois. Si on perd, on perdra. Si on gagne, on gagnera. Mais si on perd, la revendication est toujours là. Donc, pour nous, c'est une étape de plus. Et on y va avec espoir, en espérant gagner. Mais
là, vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas gagner.
Oui, au troisième. Ben, pour le moment, ce n'est pas un troisième qui vient là. Et donc, nous irons au troisième et il y a de fortes chances qu'on gagne.
C'est quoi ce troisième que vous voulez? C'est un troisième bis? Parce que pour l'instant, il y a trois référendums prévus par l'accord de Nouméa. Celui du 12 décembre va être organisé, va être validé. Vous en voulez un quatrième qui soit encore un référendum binaire?
Mais ce n'est pas le quatrième. Pour nous, c'est le troisième.
Et celui du 12 décembre, c'est quoi?
Ben, nous, ça ne nous concerne pas. La France parle à elle-même.
Est-ce que les militants de l'Union calédonienne ou les militants indépendantistes, les militants de base, comme on dit, est-ce qu'ils comprennent ce mot d'ordre de non-participation ou est-ce qu'ils ont envie justement d'y aller le 12 décembre et de voter oui?
La consigne, elle a été proposée par l'UCOMBP et l'UFLNKS et ensuite on a ramené les nationalistes. Et donc c'est une décision qui est commune à l'ensemble des indépendantistes. Mais dans nos rangs, il y a des gens, c'est comme le vaccin, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Dans nos rangs, il y en a qui, surtout les anciens, qui ont acquis le droit de vote. Nous, on est nés dans le droit de vote, mais les anciens ont acquis le droit de vote. Et donc, ils ont du mal à dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas y aller. Il y a des jeunes aussi. Pour eux, ils vont aller voter oui, mais ils iront. Donc ça, on a refait une commission exécutive hier pour élargir, pour leur dire à nos responsables de retourner sur le terrain et puis dire que l'ennemi numéro un dans ce référendum, c'est le taux de participation. Et donc il faut y aller et empêcher les votes blancs et les votes oui, etc., etc. Donc c'est le travail qui est fait déjà sur l'ensemble du territoire.
Empêcher, vous voulez empêcher des gens de voter, des gens qui veulent voter oui, vous allez les empêcher de le faire?
On ne les empêche pas, on leur dit n'allez pas voter.
Vous essayez de les convaincre de ne pas y aller?
De ne pas y aller. Et même ceux qui vont voter non, on essaie de les convaincre.
De ne pas y aller non plus?
Voilà.
Parce que les consignes de l'UC, c'était bien, vous restez chez vous, vous vaquez à vos occupations, vous allez à la chasse ou à la pêche. Mais c'était quand même de laisser, a priori, vous aviez dit que vous laissiez voter ceux qui voulaient y aller.
Oui. Mais en fait, c'est le CSI hein, qui a pris la décision à la vallée du Tir. Hein, pour
le comité stratégique indépendantiste.
Voilà. Hein. Ouais. Et donc, moi, j'ai repris la décision qui est sortie de, lors de cette réunion pour dire que on a vu en 2020 qu'il y avait des risques et donc de provocation, d'une part comme de l'autre. Mais. C'est pour cela qu'on a dit qu'on n'a rien à faire dans les bureaux de vote. Les maires et leurs conseils s'occupent d'être présents et de faire le travail. Nous, nous n'emmènerons pas d'assesseurs parce que comme on n'y va pas, donc on n'a pas d'assesseurs. Et c'est comme ça que nous avons pris la décision d'informer nos militants pour ne pas qu'ils bougent de chez eux. C'est juste pour, par précaution, pour ne pas qu'il y ait une provocation.
Et vous ne craignez pas de débordement? Vous pensez qu'effectivement les choses vont être calmes le 12 décembre?
Je pense que les choses ils vont se calmer. Et là, s'il y a des incompréhensions, c'est entre nous, indépendantistes. Mais sinon, sur les choses qui vont arriver, je pense qu'il n'y aura pas de débordement.
Vos maires, ils vont participer à l'organisation des scrutins, les maires UC et UNI. Ils sont d'accord pour le faire? Ça ne leur crée pas de problème?
Non, non, la consigne est bien portée par l'ensemble des maires. Pour dire que là, ce n'est pas un boycott, c'est une non-participation. Et donc, le bureau de vote doit être ouvert. Et le bureau doit fonctionner normalement.
Alors, vous parliez du CSI, le Comité stratégique indépendantiste pour la non-participation. Pourquoi est-ce que vous avez créé ce comité? Déjà, parfois, on a l'impression qu'au sein même du FLNKS, c'est un peu difficile de s'entendre entre vous. Là, vous rajoutez toute la mouvance indépendantiste. Ça ne rend pas les choses plus compliquées?
Il y a... Bon, c'est le bureau politique qui a décidé que... Il faut donner une photo d'unité parmi les porteurs du oui. Et donc, on a rassemblé tout le monde après le congrès de Lansvata. Et on a rassemblé tous les nationalistes de façon à faire bloc et puis partager le travail aussi.
Et donc, on a mis en place... C'était pour faire campagne pour le oui, là.
C'était pour faire campagne pour le oui. Et lorsque la consigne est arrivée de ne pas y aller... Et donc, on a été obligé de remettre en place une organisation qui prenne en compte l'ensemble des gens qui sont là, les nationalistes et les indépendantistes. Et donc, on a créé le CSI. Parce qu'avant, il y avait une autre structure qu'on avait créée qui pilotait la campagne. Et donc là, on l'a mis de côté, puis on remet celui-là, le CSI, parce qu'il faut aller expliquer sur le terrain. Donc le CSI, il travaille au niveau des régions. Il fait une réunion par région, mais une réunion avec les maires, avec les coutumiers, avec les militants responsables, qui sont différents partis. Et donc, c'est à eux, après, d'aller porter sur le terrain, dans les maisons, dans le foyer, de façon à ce que le message soit bien divulgué partout.
Mais alors, qui le dirige, c'est une direction collégiale manifestement, mais on a été un peu surpris par le ton d'une lettre qui a circulé hier sur les réseaux de la même manière, hein. La lettre ouverte du peuple kanak au peuple de France, un courrier qui menace presque de revenir sur les acquis de Naville-les-Roches. Vous partagez ce genre de message, tous les partis du CSI?
Non, non. Je pense que le courrier, là, il rappelle un peu l'histoire, en disant que c'est le donnant-donnant à Naville-les-Roches. Et donc il dit, il faut qu'on se souvienne de ça, et puis que chacun remplisse sa part. C'est ça qu'il veut dire, mais il ne menace pas. Et puis les autres, nos nationalistes, là, ils nous ont déjà fait le reproche, que nous, à l'UC, quand on prend une décision le lundi au bureau, moi je leur demande d'amener ça au BP du FLNKS pour partager, et puis ensuite, le BP partagé avec le CSI. Et tout fonctionne bien, sauf que dans les déclarations qu'on fait les uns les autres, chacun s'appuie sur son parti. Et donc, on a des déclarations qui sont un peu dissonantes de temps en temps. Mais le CSI, il est bien conscient de ça, parce que nos militants sur le terrain, ils ne se cachent pas de nous le dire. Et donc, les discussions qui vont s'engager, là, c'est pour recorriger tout ça.
Alors, d'un autre côté, l'éveil océanien, bon, n'est pas dans le CSI, apparemment, appelle même à participer, mais il est dans votre groupe au Congrès, hein, dans le groupe UCF, LNKS et Nationaliste. L'éveil océanien a donné comme mot d'ordre « non, pas maintenant », alors que pour le deuxième référendum, c'était « ni oui, ni non ». Qu'est-ce que vous pensez de leur position? Est-ce que vous en avez parlé avec eux? Vous comprenez cette position?
Oui, on comprend la position qu'ils donnent. Après, c'est la lecture qu'on en fait de cette déclaration-là. Parce que pour nous, s'ils n'ont pas maintenant, c'est puis non, c'est pas le 12, c'est après. C'est en 2022. Donc, de toute façon, il est un peu prisonnier de son électorat, donc il ne peut pas s'avancer trop. Si les autorités coutumières walliennes de Wallis, si les familles n'ont pas pris une décision. Donc c'est pour ça qu'il laisse libre choix aux électeurs d'y aller ou de ne pas y aller, de voter ou de ne, oui ou non.
Alors pour en venir au référendum proprement dit du 12 décembre, tout le monde répète, tous les experts, l'État également, que quelle que soit la participation, la validité juridique de ce référendum ne pourra pas être mise en cause. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Parce que à quoi ça sert de ne pas participer si finalement le référendum est effectivement validé ? Vous aurez raté une occasion d'exprimer votre position ?
Moi, je dirais que oui, ça c'est la plus simple, la lecture juridique du document, enfin de la situation, mais ce qui est pour moi le plus important, c'est de parler de légitimité. Parce que la sortie de ce troisième référendum, mais c'est un référendum de colonisation qui s'inscrit dans le cadre de l'accord Nouméa. Et donc l'accord Nouméa, il est bien précis puisqu'il dit que l'État, reconnaît que le pays a vocation à accéder
à une complète émancipation.
Voilà. Et donc,
c'est pas une indépendance forcément, c'est pas la pleine souveraineté, c'est complète émancipation. Et vous savez, comme les mots sont oui, délicats et peuvent être interprétés. Hein.
Mais je parle du processus hein, pour sortir de l'accord Nouméa. Et donc, ce processus-là, il est issu d'une discussion, comme c'est mentionné. Et cette discussion-là, ils ont. Et l'État, pour une fois, il a pris en compte le droit inéactif à l'indépendance, comme c'est dit dans le document. Et donc, partant de là, la légitimité du peuple kanaké, le seul peuple colonisé, il donne crédibilité ou non à ce référendum. Et c'est le fond de la pensée qui a fait qu'aujourd'hui, on ne vote pas, parce qu'on a les différentes raisons qu'on a données. Mais la légitimité, et pour nous, elle prime sur la lecture juridique.
Enfin, la légitimité, c'est aussi celle des populations intéressées, comme dit l'accord de Nouméa, et qui sont appelées à participer à ce troisième référendum, enfin à ces trois référendums. Et la population intéressée, ça va plus loin que le peuple kanak.
Oui, mais le peuple kanak, c'est le seul peuple colonisé.
Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe après ce 12 décembre ? Est-ce que ce troisième référendum, pour vous, ça ne met pas un terme à l'accord de Nouméa ?
Nous, nous avons notre projet de société. Donc, on a demandé une bilatérale, c'est l'État qui le fera. Nous discuterons sur notre projet de société. Nous n'irons même pas discuter sur le résultat du référendum.
Vous n'allez pas les contester ?
On va regarder s'il faut contester. Nos instances prendront la décision. Mais pour le moment, nous sommes pour aller discuter, mais dans un calendrier qui est le nôtre.
Et c'est quoi ce calendrier ? Puisque le ministre des Outre-mer a prévu 18 mois de discussion, 18 mois de transition à partir du 13 décembre. Le calendrier de l'UC ou des indépendantistes, c'est quoi ?
C'est 3 à 5 ans de transition. Et donc l'État, il prend 18 mois et il va discuter, mais nous, on ne discutera pas pendant les... Parce que pour nous, on va attendre la prochaine équipe présidentielle. On ne discute pas avec une équipe finissante.
Donc vous attendez les résultats de la présidentielle, les législatives, imagine.
Oui.
Et après, vous prenez contact avec la nouvelle équipe pour discuter avec elle.
Voilà.
Et s'ils sont les mêmes ?
On discutera avec eux, mais on attend, parce que là, ce serait un nouveau mandat. Donc on attendra.
Mais alors, vous voulez discuter uniquement avec l'État ? Qu'est-ce que vous faites des partenaires, de vos partenaires locaux, des accords de Matignon et de Nouméa ? Vous n'avez plus rien à leur dire ?
Nous, nous discutons, comme on l'a demandé à plusieurs reprises lorsqu'on parle dans les comités de signataires, c'est que la bilatérale, ça concerne nous et l'État. Et la bilatérale avec les non-indépendantistes, ça concerne l'État et eux. Et c'est seulement à partir de ça qu'on élabore un projet commun. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de projet qui vient du non. Et c'est pour ça qu'on dit, on va poursuivre la discussion, mais sous l'embat de notre projet.
Et vous attendez un projet qui vienne du non, vous seriez prêt à le prendre en considération dans ces cas-là?
Bien sûr. La déclaration de M. Mapou a démontré ça.
Et alors l'État, vous envisagez des discussions à trois, à terme, ou uniquement des bilatérales des deux côtés? Ça ne va pas permettre de trouver une solution, de trouver une issue?
Mais sur la base du projet, on discutera des deux projets. Mais nous avançons notre projet.
Et selon vous, Daniel Goa, même si les indépendantistes ne vont pas participer, on a vu le dernier... On a les indications des deux derniers référendums, on voit à peu près le rapport de force. Comment est-ce qu'on sort de cette situation dans laquelle on est maintenant depuis 30 ans de discussion, France, pas France, France ou indépendance? Quelle solution vous envisagez sérieusement pour sortir de cette période? Et par quels moyens?
Je pense que l'accord Nouméa, il a été assez précis dessus. Hein. Il dit que après, on se retrouve et puis on regarde comment on fait. Mais ça veut dire que, un peu comme le dit le Cornu, le référendum de 18, au bout de 18 mois, c'est un référendum projet. Donc pour cela, il faut qu'on ait déjà discuté entre nous. Et nous avons une proposition de projet. Maintenant, c'est aux autres porteurs du nom de nous faire leur. De façon à ce qu'on puisse tracer quelque chose en commun. Mais comme j'aurais dit, hein, j'ai trouvé que la déclaration de M. Mapou hier, elle est tout à fait dans le cadre de la démarche de rassembler tout le monde. Et puis réduire les injustices, etc., etc. Donc je pense que là, ce sont nos instances qui décideront. Mais moi, je ne fais qu'ouvrir une voie, que la suite, on est condamné à discuter et puis à fabriquer le pays que l'on souhaite. Mais comme je vous l'ai toujours dit, je l'ai dit encore à d'autres, la France aujourd'hui, en tant que partenaire, c'est une vitrine entre nous. On ne s'entend pas, on se voit, mais on ne s'entend pas. Alors si on arrive à le mettre de côté, et puis sans le jeter, mais le mettre de côté, et puis que nous, on parle de notre projet, de notre façon de vivre, de notre personnalité pays, eh bien, on y arrivera mieux. M. Faugier me disait ce matin que, quand ils ont discuté à Paris l'accord de Nouméa, eh bien, ils ont été jusqu'à minuit, 1h du matin, et ils ont demandé à ce que, Jean-Marie a demandé à ce que le pain sec il sort. Monsieur le ministre, vous pouvez sortir. Et il est sorti sans rien comprendre. Et les Caldoniens se sont parlé sans l'État. Et ils ont trouvé et fabriqué l'accord nous-mêmes. Donc tout est possible, mais si la vitrine est entre nous, on ne s'entend pas.
Et vous pensez que c'est un schéma qui pourrait être reconduit cette fois-ci pour sortir de l'accord Nouméa, justement, parler entre vous?
Bien sûr. Nous, on n'a jamais été fermés à la discussion. Donc, mais si c'est le non ou si c'est le oui qui passe... Enfin, qui passera, puisque le troisième référendum, c'est... Eh bien, nous, de toute façon, nous irons à la discussion, à un moment donné, faire le travail pour que notre pays, à un moment donné, s'émancipe, et c'est le pays lui-même qui nous dira qu'il est à maturité pour desserrer des liens tissés par la France, pour tisser de nouvelles relations avec des pays étrangers, etc., etc. Donc, c'est le pays qui nous le dira. Parce qu'on aura réussi notre pari.
Mais en attendant, le 12 décembre, c'est le non qui va l'emporter.
Le 12 décembre, c'est le non qui va l'emporter.
Et les discussions que vous êtes prêtes à mener, alors, elles pourront... Avec vos partenaires locaux, vous n'avez pas besoin d'attendre l'élection présidentielle.
Oui, mais je ne veux pas être méchant, mais bon, c'est la France qui se parle à elle-même, quoi. C'est pour ça que je parle de légitimité du référendum. Parce que le troisième partenaire vraiment concerné, enfin les deux partenaires, c'est l'État et nous. Et donc c'est à Naville-les-Roches qu'on a accepté que nous fassions pays. Mais il faut continuer. Et donc il faut nous attendre. Il faut faire un autre référendum pour que le oui l'emporte.
Un autre référendum binaire. Vous ne croyez pas que les Calédoniens en ont assez de voter pour ou contre?
Non, mais ça veut dire que si au troisième, là, qui va se tenir le 12, les Calédoniens ont voté non, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Donc il faut mettre en place un quatrième. Ouais. Non, je plaisante, mais c'est simplement pour rappeler le principe de l'accord Nouméa et puis l'esprit dans lequel se sont inscrits pour mettre trois référendums.
Un esprit dans lequel vous êtes toujours aujourd'hui.
On y est toujours, d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a que les indépendantistes aujourd'hui qui respectent l'accord Nouméa à la lettre et à l'esprit.
Alors, après trois référendums, on discute de la situation ainsi créée. Hein.
Voilà.
C'est ce qui est prévu.
C'est ça.
Daniel Gohomme, président de l'Union calédonienne, merci d'accepter votre invitation.
C'est moi qui vous remercie.